Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3. Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Jean-Claude Cayette qui vous propose une demi-heure d'émotion littéraire, le lire et le dire. Aujourd'hui, notre invité est une association littéraire qui a eu la bonne idée de s'appeler Association Le Lire et Le Dire. Voilà, c'est comme ça. En dehors de cette particularité anecdotique, nous recevons cette association en raison de son intérêt et de son action concernant les livres, les narrations, les mots, la façon de les agencer pour élaborer un texte dans un atelier d'écriture, la façon de les transmettre, faire connaître des écrits lors de lectures publiques. Pour ce faire, j'ai invité sa fondatrice, Mireille Diaz Florian, qui va tout nous dire sur ses activités. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Mireille, je vous propose de vous présenter. Voilà. Vous êtes qui ?
Alors, moi j'ai été professeure, j'ai arrêté l'enseignement maintenant depuis 2010. Et parallèlement, j'ai toujours animé des ateliers théâtre quand j'étais en lycée, organisé des voyages pour les étudiants à la fac. Donc j'avais comme ça quelques activités périphériques, mais intenses. Et puis j'écris. J'ai d'abord écrit une biographie sur Catherine Pozzi au moment où j'étais en activité professionnelle, ce qui avait fait un très lourd travail, 2 ans de recherche et au bout du compte, 3 ans avec l'écriture, voilà.
Je pensais en parler un petit peu plus tard, mais alors, Catherine Pozzi, c'est un poète à cheval sur 2 siècles.
Alors, Catherine Pozzi, elle est d'abord très méconnue, sinon oui. Grâce ou avec Paul Valéry.
J'ai été voir sur Wikipédia.
Voilà, et elle... Le à cheval, oui, disons qu'elle est plutôt connue début du XXe siècle. Mmh. Et c'est peut-être un de ses descendants, son fils, qui est le plus connu, Claude Bourdet, puisqu'il a été un très, très grand journaliste, un très grand résistant. Mmh. Mmh. Et Catherine Pozzi a été, on peut dire, révélée au grand public, on peut dire ça comme ça, par Claire Polan et la publication du journal de Catherine Pozzi.
Et, alors vous
et êtes... actuellement, j'écris et j'anime l'association Le Lire et Le Dire avec 2 casquettes. Faire des lectures, des montages lectures, lire parfois, et puis animer des ateliers d'écriture. Au jour d'aujourd'hui, c'est mon activité principale.
Alors vous avez écrit des pièces de théâtre
hein ? J'ai écrit des pièces de théâtre pour enfants. Parce que j'ai collaboré à la création aussi d'un petit théâtre qui s'appelle le Théâtre Astral, qui est toujours en activité au Parc Floral de Paris. Et j'ai écrit des pièces en collaboration avec le metteur en scène qui s'appelle Lucette Grimaud. Et puis j'ai écrit une pièce, La mémoire d'Ariane, qui était dans la revue théâtrale.
Qui était mise en voix.
Mise en voix à France Culture, oui. Ça va remonter assez loin maintenant, oui. Mise en voix dans l'émission de Lucien Atoun, qui a été aussi un grand promoteur de pièces de théâtre.
Et alors, vous collaborez également à une revue qui s'appelle Brève.
Alors, le mot collaboration est un peu large, mais l'avantage de la revue Brève, c'est que quand on envoie un manuscrit, ils font un choix qui est souvent lié à la thématique de la revue et à leur goût, évidemment, pour qu'ils choisissent.
Thématique pour...
Pour la revue. La revue est organisée autour d'une thématique.
D'accord.
Du moins, il y a cette manière de croiser les textes. Et c'est une revue qui a le mérite de ne publier que des nouvelles, ce qui est rarissime en France. Et elle est devenue une anthologie de la nouvelle. Donc c'est une revue dans laquelle on a grand plaisir à être édité. Et j'ai été très fière d'y être édité, effectivement.
Avant de rentrer dans le cœur du sujet... Tout d'abord, comme nous avons pris l'habitude, quelques aphorismes ou citations en rapport avec le thème de l'émission. Alors, j'ai choisi la lecture et je sollicite les commentaires de votre part, bien entendu.
D'accord.
La lecture, une félicité qui se mérite. Émile Olivier. S'il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de commentaire.
Je ne le connais pas, c'est-à-dire moi, les aphorismes, j'en connais certains et d'autres, pas du tout, c'est le propre de l'aphorisme.
Ça, alors là, Émile Olivier, je ne connais pas non plus. La lecture encombre la mémoire et empêche de penser. Alors ça, c'est de George Wells. C'est bizarre hein, de dire ça.
Quand oui, c'est bizarre, très... je peux le comprendre. C'est qu'à certains moments, elle peut couper de l'action, si on est une addicte de la lecture, je pense. Et puis elle peut donner une vision du monde un peu erronée. Encombrement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme.
Hein. Dur,
mais ça
n'empêche
pas de penser, parce que je pense que ça nourrit la pensée. Donc là, je m'inscris en faux.
Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. Là, je ne sais pas, je n'ai pas noté.
L'art, en général, fait résister aux mauvaises choses.
Oui, c'est vrai. La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Bon, c'est de Addison. J'ai trouvé que c'était un peu limitatif, quand même, comme explication.
Le terme exercice est intéressant.
Une autre, très, très, très gentille. La lecture est une amitié. C'est de Marcel Proust, qui a quand même réussi quand même à dire quelque chose en deux phrases.
Oui, il a écrit aussi sur la lecture et on connaît son goût pour la lecture. Il nous a donné aussi l'occasion de plonger des heures dans ses lectures.
Dans ses lectures, oui. En préparant cette émission, je vous ai demandé de préparer une définition personnelle sur la lecture.
Alors, c'est toujours très difficile pour moi de donner les définitions, mais pour moi, c'est une manière de vivre et de penser, parce que ça implique le silence, la concentration, la découverte, le travail de l'imaginaire, ou au contraire, le rappel au réel, ça dépend ce qu'on lit. Non, pour moi, ce serait ça.
D'accord. Alors, nous passons à votre association. Je lis les intentions et les buts de cette association telles déposées en préfecture lorsqu'on dépose les statuts. L'association Le Lire et le Dire a pour objectif de faire connaître des textes et des auteurs par des lectures publiques, mises en voix et en espace, avec une collaboration musicale. Elle souhaite intervenir dans des lieux divers, théâtre, bibliothèque, librairie, café, espace scolaire, universitaire, associatif. Et elle propose également des ateliers d'écriture. Et donc, vous étiez quelques-uns comme ça, à un moment donné, à vouloir faire connaître des textes. Cette association existe depuis combien de temps ?
Depuis 2000. Elle a été créée en 2000, en fait. Au moment où on avait monté une lecture, qui a été un moment très fort, très intense, qui s'appelait « Voix de femmes », sur les femmes dans les camps de concentration, mais en montrant leur belle énergie, leur belle créativité, et pas simplement le drame des camps de concentration. Et là, ça a été un moment où on a travaillé avec un groupe de musiciens, avec un metteur en scène, Coco Jaspard, etc. Donc, il fallait trouver une structure pour permettre, par exemple, des présentations, des représentations. Donc, là, on est passé à l'acte de la création avec Marie-Thérèse Riglet, qui n'y est plus. Et donc, elle a été créée à ce moment-là et elle a été un petit peu mise en sommeil. Au moment où j'ai plongé dans la recherche sur Catherine Pozzi, parce que c'était impossible de faire front, et elle a repris son activité dans les années 2010-2011, un peu plus fermement.
Qui a choisi le nom, Le Lire et le Dire, et comment vous est venue cette idée ?
Alors, c'est moi qui l'ai choisi. Je pense que l'idée est venue de ce caractère toujours étrange de l'infinitif, en fait, parce que c'est un verbe... qui peut nommer dès qu'on met un article devant. Et donc, c'est très ouvert. Et ça rendait bien compte du plaisir de lire et de l'envie de faire partager ce plaisir en faisant entendre. Et donc, le plaisir aussi de le dire ou de le faire dire à des vrais comédiens à l'occasion.
Parfait. Je resservirai quand on m'interrogera sur Le Lire et le Dire, émission de radio.
D'accord.
On ne se connaissait pas.
Oui.
Et on a découvert.
Oui, oui, c'est magnifique. C'est par la grâce d'Internet.
Exactement. Alors, on va se pencher sur la lecture publique. En France, par rapport aux pays anglo-saxons, germaniques, japonais, on n'a pas de culture de la lecture. Rares sont les auteurs qui organisent des lectures de leurs œuvres. Vous êtes d'accord avec moi ?
Oui, quoique de plus en plus, il me semble qu'à cause des dédicaces ou d'un certain nombre d'associations, on voit des auteurs prendre en main leurs textes. Alors, je pense à Christine Angot, par exemple, comme ça, spontanément.
Oui, oui.
Mais j'ai aussi amené mes élèves, voir ce que j'appelais un poète vivant, les faire écouter à la Maison de la Poésie, quand elle était encore au Hall, et écouter Yves Bonnefoy lire ses textes. Et c'était absolument magnifique, parce qu'il y avait... quelque chose de magique entre sa voix grave, modèle Alain Cuny, et puis la découverte pour des jeunes oreilles quand même, même si c'était en terminale, de textes qu'ils jugeaient un peu abstraits, mais là, qui prenaient toute leur force.
Alors par exemple, en Italie, Alessandro Baricco a écrit « Soi ».
Oui.
C'est une langue nouvelle, uniquement dans le but d'une lecture publique.
Oui, oui. Alors,
vraiment, ça
c'est,
a été
d'abord,
écrit
c'est,
pour...
Oui.
Bah,
il faut dire que ce roman est absolument magnifique,
et
oralement et à l'œil. c'est une magnifique synthèse.
Alors, il y a le problème quand même des nouvelles qui s'adaptent très bien justement des lectures. Et c'est pareil, en France, la nouvelle est maltraitée.
Oui, elle n'a pas... beaucoup de novellistes étrangers sont traduits, parce qu'on découvre peut-être chez l'autre la qualité de la nouvelle. Là, je rendrai un hommage appuyé à Annie Saumont, qui vient de mourir récemment, et qui est notre très grande nouvelliste française, et qui était fort méconnue, sauf de quelques passionnés. Oui, il n'y a pas... se présenter chez un éditeur avec un recueil de nouvelles,
c'est pas la peine. C'est un cercle vicieux, parce que l'auteur qui va chez l'éditeur, l'éditeur lève les bras en disant « Ah non, mais c'est pas possible, il n'y a pas de public, non, je n'en veux pas. » Et voilà, ça fait la boucle
est bouclée. Oui, absolument.
Et du coup, la nouvelle est asséchée, et même le public qui veut lire des nouvelles, il n'y en a pas.
Alors, il y a des tentatives. Il y a aussi des auteurs qu'on lit qui sont assez importants. Je pense à Hubert Haddad, Éric Faye, etc. Je parle d'auteurs contemporains. On les lit en tant que romanciers, en tant que nouvellistes, mais c'est vrai qu'ils sont portés aussi par leurs œuvres de romanciers, peut-être, en même temps, sinon avant, que nouvellistes. Oui, c'est vrai que la nouvelle est peut-être pas un genre reconnu, à part peut-être la nouvelle fantastique ou la science-fiction, je ne sais pas.
Les nouvellistes japonais sont très très appréciés, et quelqu'un comme Yoko Ogawa, qui n'écrit que des nouvelles, est vraiment la plus grande nouvelliste au monde. Enfin bon, peut-être pas la
peut-être
plus
grande. Peut-être pour vous,
il
y en a d'autres,
mais
il y a énormément de grands nouvellistes.
Il y a quand même les Américains comme Carver,
absolument.
Hemingway, j'en parle pas, etc. Et nous, Français, 19e, 20e siècle, Maupassant.
Oui, on a tendance à s'arrêter à Maupassant.
Voilà, exactement.
Mais plaidons pour Madame Saumont.
On revient à la lecture. Alors, est-ce qu'il y a un public pour les lectures ?
Oui, je pense qu'il y a un public pour les lectures avec une restriction. Mon association étant toute petite, je pense qu'à bien des égards, c'est beaucoup de relations amicales. Mais quand il y a un public de passage, on pourrait dire ça comme ça, je pense qu'il apprécie le fait d'entendre des textes montés. Évidemment, il faut une cohérence, mais je crois qu'il y a un public.
Quelle est la frontière entre une lecture avec effet de lumière, plusieurs lecteurs, de la musique, et puis un spectacle de théâtre ?
Alors la frontière, elle peut être, selon les moments, ténue. La première frontière, c'est qu'on a souvent le texte à la main ou posé,
c'est vrai,
et qu'on ne l'apprend pas par cœur. Quoique, quand on répète une mise en espace, les transitions, tout ça, on les mémorise pour qu'il y ait une bonne fluidité. Mais ça va au-delà. Je pense que quand on lit, on est lecteur du texte, c'est-à-dire on se l'approprie, et on ne va pas forcément le projeter avec un jeu d'acteur. Il y a une sorte, pas de neutralité, mais on est très derrière le texte. Il y a une humilité du lecteur, là où le comédien peut s'emparer du dialogue ou des personnages.
Oui.
Bon, c'est une frontière pour moi.
Oui, effectivement. Effectivement, vous êtes assis derrière une table, voilà.
Oui, ou même si on est debout, et même si on bouge, il y a un moment où ça n'est pas on n'est pas investi, par exemple, d'un personnage.
Oui,
alors que l'acteur, lui, il a cette transformation, quoi.
J'ai été voir il y a quelques mois un spectacle dans un théâtre parisien, le chien d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est une nouvelle dont le texte n'a pratiquement pas été adapté. Il y avait deux comédiens, une table, de la lumière, et c'est tout. Donc voilà un peu la frontière.
C'est-à-dire le théâtre peut aussi s'emparer d'une mise en espace tellement sobre qu'on a l'impression d'être en train de lire un texte. Mais quand même, à ce moment-là, les comédiens sont autrement dans le texte. Alors que nous, on est au service. Enfin, quand on lit, quand on fait une lecture, on est au service du texte avec des rythmes particuliers pour que ça ait le temps d'arriver jusqu'à l'auditeur.
Quoique l'apprentissage de lire, c'est le même apprentissage pour un comédien ou pour un lecteur, à peu près.
Pour la mise en bouche, hein, quoi,
pour
qu'on sache, on fasse attention à ce qu'on lit.
Qu'on parle lentement, qu'on parle
bien,
etc.
Bien sûr.
Je vous ai proposé de venir avec un ou deux textes de lecture.
Oui.
Eh bien, c'est le moment.
Alors, j'ai choisi des textes très différents. Parmi ceux qui ont été lus dans l'association. Alors celui-ci a été lu magnifiquement avec le montage que j'avais réalisé par Didier Flamand, parce qu'il faut vraiment un comédien à mon avis pour le lire, donc j'en lirai qu'un tout petit bout. C'est un livre de Cyril Huot qui s'intitule « Lettre à ce monde qui jamais ne répond » et qui concerne la vie de Catherine Mansfield, mais retraitée par l'écrivain. La vérité pure, comme seul un menteur peut le dire, la pure vérité, l'indicible vérité, comme seul un menteur peut parvenir à le dire, voilà ce que serait qu'écrire des histoires. Voilà ce que devrait être la fiction. Ton ultime vérité, ma chérie, l'ultime vérité de Catherine Mansfield, cette vérité qu'elle s'était soufflée à elle-même, qu'elle appelait de tous ses voeux dans son dernier souffle, cette vérité qui serait l'ultime vérité quand c'était un mensonge éhonté, quand ce que nous voulions, c'était tout, sauf la vérité. Quand la première des vérités, dont nous ne voulions pas plus que les autres, et même moins encore que les autres, c'était que nous ne voulions que du mensonge. Donnez-nous aujourd'hui notre mensonge de chaque jour, bien plus que de pain, c'était de mensonges dont nous avions besoin. D'un mensonge qui tienne la distance de la vie, du mensonge chaque jour de notre vie. Voilà ce qu'il nous fallait pour nous débarrasser, ne serait-ce qu'un moment, de l'ignoble réel, comme l'avait fait toute sa vie, cette menteuse, cette pauvre menteuse, cette merveilleuse menteuse de Catherine Mansfield.
Merci beaucoup, merci. Alors, comment sont sélectionnés les textes ?
Ça, c'est une question qui pourrait faire croire que l'association tourne autour de ma petite personne, mais ce qui est un peu vrai, ce qui est franchement vrai, c'est que je l'ai choisi. Et j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que c'est souvent lié... par exemple, pour ce livre de Cyril Huot, je me suis dit, ce livre, c'est absolument, ça sera une lecture quand je ne sais pas qui va lire, certainement pas moi. Il me faut un comédien parce que c'est un monologue essoufflé en permanence avec des points qui arrivent très tardivement. Mais la résonance de ce texte me semblait nécessaire de le faire connaître aussi. Et puis, c'est lié souvent à des lectures où je me dis, tiens, si on faisait par exemple l'adaptation de La nuit, la neige de Claude Pujade-Renaud, parce que moi, j'ai participé de cet imaginaire et de cette prose très élégante. Et voilà, je le propose. Alors, et là, il y avait d'autres lecteurs, parce qu'il y avait trois personnages mettre en parallèle. Donc, le choix, il est quand même lié au livre et si possible, pour moi, des auteurs contemporains, je n'ose pas aborder les monstres du patrimoine, parce que d'abord, ils le sont beaucoup mieux et ailleurs.
Oui, puis c'est bien de faire connaître d'autres
auteurs.
Oui,
et puis faire connaître des gens qui écrivent, qui travaillent là et qui sont vivants, parce que la lecture posthume, c'est bien, mais si on peut vivre avec des écrivains vivants, c'est mieux.
Vous sélectionnez des textes de votre atelier d'écriture ?
Alors, l'atelier d'écriture, il est dans l'association, mais il est à part. Mais il se termine toujours par ce qu'on appelle le brunch de la mezzanine. La mezzanine, c'est le nom de l'atelier. Et ils sont lus. Il y a un montage. Ils sont lus. Alors, quand on a la chance avec un comédien. Sinon, l'année dernière, par exemple, toutes les participantes ont lu des extraits de l'atelier. Oui.
Alors, comment se passe le travail de mise en bouche, de mise en scène et de la musique ? Est-ce que les rôles sont figés, chacun s'occupe de son domaine, ou bien vous faites appel à la créativité de chacun, parce qu'il y a une petite équipe qui s'agrège ?
Alors, quand c'est merveilleux, quand il y a une équipe, c'est parfait. C'est-à-dire, si je prends le moment où on a accueilli justement la revue Brève, il a fallu que je lise une cinquantaine de nouvelles, que je fasse un montage, et du coup, je me suis dit, il faut absolument quatre voix pour avoir des variations de voix et puis pour partager la nature très diverse des textes. Mmh. Donc là, le temps règle de lui-même le travail antécédent. Chaque lecteur va mettre en bouche ses morceaux que j'ai plus ou moins distribués ou dont ils se sont emparés parce qu'ils se disent « moi, je voudrais absolument lire ce morceau ». Et puis après, eh bien, on va faire idéalement trois filages. Un avant-dernier dans le lieu même, parce que le théâtre est toujours plein comme un œuf d'activités théâtrales. Donc c'est un peu difficile de s'y glisser le matin de bonne heure. Et donc la mise en espace, on la fait ensemble, où je me mets un peu en retrait, puisque je connais bien le lieu.
D'accord. Donc ça dépend des circonstances.
Ça dépend des circonstances, oui. Voilà.
Nous allons interrompre là cet entretien car je voudrais vous parler d'un livre de poésie, Quarantaine, de Jean-Michel Platier, préface de Francis Vladimir. Alors, vous connaissez le haïku. Le haïku est une forme japonaise de poésie permettant de noter les émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne. C'est une forme très concise, 17 syllabes en 3 vers. Eh bien là, l'auteur va être encore plus concis. Donc je vais lire quelques poèmes. Le miroir vide aux alouettes. Ne plus rien faire, se taire, s'effacer. Faire semblant d'aimer, de vivre. Le marque-page s'envole avec l'automne. La patience définie par l'érosion. Je ne peux pas lire évidemment tout le livre. L'autre particularité est que sur une même page, chaque poème court est traduit en 6 langues. Donc le français, bien sûr, l'espagnol, l'anglais, l'allemand, le russe, l'italien. Donc je vous recommande c'est pas quelque chose de facile, hein, bien sûr. Pour une lecture publique, ça ne serait pas possible, bien sûr. Jean-Michel Platier, Quarantaine. Et ça se trouve la passe-vent chez l'éditeur. Si je comprends bien, le travail de l'association se divise en deux. En premier, la sélection, la mise en scène, où la musique a beaucoup d'importance. Et puis, alors les répétitions, il y a bien des répétitions.
Oui, on voudrait toujours en faire plus. C'est toujours quand même très limité. L'avantage du musicien qui vient, pas toujours hélas, mais qui vient dans ce genre de lecture, c'est qu'en général, il sait se glisser au bon moment, après un prologue, il va entrer, soutenir les textes. Donc ça suppose aussi que le musicien il soit pénétré par le texte à certains égards.
Le second volet, c'est de chercher un lieu, de répondre à une demande d'un lieu. Comment ça se passe également pour ça ?
Alors, j'ai la chance de pouvoir bénéficier d'un lieu au Théâtre de l'Épée de Bois une fois par trimestre pour ces lectures. Sinon, là, par exemple, pour le Printemps des Poètes, je pars à Tulle dans une librairie, la librairie Préférence, pour faire une lecture. Donc, idéalement, ça serait de multiplier les lieux.
Bibliothèque.
Oui, éventuellement, ça demanderait alors de l'aide dans l'association pour qu'il y ait une recherche. Quoi, c'est pas évident. C'est une toute petite association qui repose la plupart du temps sur mes frêles épaules.
Donc il y a un programme qui existe.
Alors le programme, c'est un peu comme un peu comme la vie au sens où le programme se bâtit tout doucement avec des perspectives à partir du mois de juin. Et avec les hasards de tout le mouvement de la vie et des lieux aussi, parce qu'il faut avoir des dates, par exemple, de libre au théâtre, il faut avoir des lecteurs, il faut que j'ai le temps de faire un montage si c'est un gros montage. Donc, le programme, par exemple, si on regarde la saison, parce que je le fais par saison, disons de fin de octobre à mai, voilà, le programme peut varier selon les années.
D'où sommes le 15 mars ?
Alors, est le 15 mars.
Qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, pour l'avenir, le 15 mars, c'est-à-dire que cette année, l'association, finalement, va travailler en province. Donc, les jeudis de préférence, où il va y avoir un atelier d'écriture en librairie, une lecture, ça va se passer le 8, le 9, le 10 et le 11 mars à Tulle, en Corrèze. D'accord. Donc, la librairie préférence. Puis, le 5 février, il y avait une lecture au théâtre de l'Épée de Bois, qui s'appelait J'avais 20 ans et j'étais immortelle.
Alors, vous animez également des ateliers d'écriture. Oui. C'est pareil. Alors là, quoi, il y a une adresse, il y a un numéro de téléphone.
Oui, alors l'adresse, en général, c'est l'adresse de l'association, 6 Square des Peupliers.
Profitez
du coup. 6 Square des Peupliers, Paris 13e.
Alors, 6 Square du Peuplier.
Des Peupliers.
Des Peupliers.
Il y en a plusieurs. C'est pas vrai, il n'y a pas un seul.
Dans le 13e.
Oui.
Un numéro de téléphone, un mail
En général, mon portable. Je peux le donner à l'antenne, c'est pas gênant. Le 06 88 39 04 83.
Un mail.
Et le mail, tout simple, mdiazflorian@wanadoo.fr. Le blog est en formation sur le lire et le dire. C'est pas l'endroit le plus facile pour communiquer pour l'instant, mais il y aura bientôt un contact sur le blog. Enfin, il est en cours de fabrication.
Rapidement, quelques questions rafales concernant des habitudes d'écriture et conseils que vous donneriez à des personnes commençant à écrire. Par exemple, pour vous, l'importance du plan de la mise en chapitre.
Oh là, ça vient à la fin de l'œuvre. Ça n'a pas d'importance au départ, dans un atelier, non. C'est très dur à venir, ça.
Bon,
le plan.
D'accord.
Ça suppose qu'on écrit un livre, déjà.
Oui, oui, je suis dans le livre, déjà.
Oui. C'est l'aboutissement, là.
Voilà, l'importance des notes quand on écrit un livre.
Des notes dans le livre ou la préparation ?
Pour la préparation, oui.
Ah, oui, on prend des notes tout le temps, là. Il faut des centaines de petits carnets, oui.
Voilà, ouais.
Ça, c'est clair.
Centaines de carnets, là.
Oui, j'y vais vite.
Bon. L'importance de la relecture, de la réécriture et de la correction avant de chercher un éditeur.
C'est constant, c'est-à-dire que la réécriture, c'est le travail de l'écrivain, c'est de l'artisanat.
Voilà.
Alors après, chercher l'éditeur, c'est autre chose, mais l'écriture,
mais
c'est réécrire.
Voilà, la réécriture fait partie de l'écriture.
Ah oui, hein, c'est constant, c'est l'artisan.
On revient tout le temps sur le...
Oui, bien sûr.
Et la correction ?
Et la correction fait partie. La langue est un tout, elle a besoin... C'est pour ça qu'il faut faire relire. Moi, je sais que le premier livre que j'ai édité, la biographie, quand je suis tombée dans les mains de la correctrice, elle avait vu plein de choses à revoir. Des coquilles, des doublés, des... Oui, c'est très important, la correction.
Nous avons reçu Mireille Diaz-Florian, créatrice de l'association Le Lire et le Dire, qui s'attache à faire connaître des textes et des auteurs par des lectures publiques. Merci Mireille.
Merci.
Si vous voulez nous faire part de vos impressions, laissez des commentaires, vous pouvez nous joindre à ce mail jc.cayette@nous.fr. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter le mardi de 9h30 à 10h. C'était JCC pour FPP. Au revoir.
Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.